Kiosque Magazine.
Jeudi 26 mars, et ça y est, je crois, on y est, au printemps, je veux dire, je touche du bois, en fait, je fais des choses indécentes à un érable au moment où je vous parle. Écoutez, nous devrions être comme des pucelles frémissantes ce matin, Rémi Hermoso, oui, qui assure la mise en onde, Éric de Belval et moi-même, puisque c'est jour de budget, mais malheureusement, voyez-vous, c'est le genre de choses dont on pourra vous parler éventuellement demain. Pour l'instant, je me contente de vous dire que, comme le ministre des Finances a annoncé que la plupart des Québécois devrait être heureux demain, ben moi, je suis très inquiet. Enfin, de quoi allons-nous parler ce matin, Éric?
Ben, on va commencer par ne pas s'écarter de problèmes de budget. On va parler de fiscalité pour commencer. Alors, on le sait, la fiscalité, c'est un des principaux piliers de la démocratie. Ce grand principe est toutefois soumis à des applications complexes, notamment celui de la justice fiscale. Et si on descend encore d'un cran, il faut inclure la question de l'aide sociale, qui est intimement mêlée à celle de la dette, que l'on peut aussi appeler les impôts de demain, cadeaux des égoïstes générations, au pouvoir aux générations futures. Bref, où en est la réflexion sur la réforme fiscale dont on parle beaucoup ces jours-ci? On le verra. Ensuite, alors là, une grande nouvelle, c'est les États-Unis qui s'attaquent à la réglementation de la fracturation hydraulique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution de la réglementation en cette matière? Est-ce que surtout c'est possible aux États-Unis où on connaît la puissance des compagnies pétrolières? Eh bien, il existe un frémissement et peut-être davantage dans cette direction. C'est une nouvelle illustration du grand défi des temps modernes qui oppose course au profit et à la dépense d'énergie à la survie de l'humanité. Rien de moins que ça. Et pour finir, en ce qui me concerne, 5 choses qu'Apple sait sur votre vie privée. Vous savez que je tiens Apple pour un grand ennemi de l'humanité et que je fais tout ce que je peux pour le pourfendre, même si je me sens un peu seul. Mais on savait que beaucoup de détails, parfois peu avantageux pour le consommateur, peuvent se cacher dans les petits caractères, par exemple d'un contrat d'assurance. Eh bien, c'est pas grand-chose à côté de tout ce que vous cédez à Apple lorsque vous utilisez ses produits. Savez-vous qu'il suffit d'accepter une mise à jour pour être entraîné dans la session gratuite et obligatoire d'un très grand nombre de données personnelles. Et on verra lesquelles.
De mon côté, le travail a moins de temps. C'est-à-dire les gens qui veulent travailler, par exemple, 4 jours par semaine, que ce soit à faire, par exemple, 36 heures sur 4 jours, ou alors moins d'heures sur 4 jours, ou même sur 3, voire... Ben, c'est de plus en plus fréquent. Et on va voir qu'avec la génération Y, ben, les gens savent qu'ils ont plus le choix pour les employeurs. Résultat, ils sont plus exigeants. Comment les patrons doivent réagir à ce genre de demande-là? C'est pas toujours évident, particulièrement sur une chaîne de production. Je vous parle également de pétrole. De mon côté, des effets de la baisse du pétrole à long terme, puisque l'agence France-Presse s'est penchée sur le sujet en ce qui concerne le Canada. Mais pour commencer, moi aussi, je vais vous parler de la commission Godbout et de fiscalité. C'est pas que je veux être rébarbatif, mais la fiscalité verte, c'est un sujet quand même assez intéressant. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Je vous l'ai dit, c'est jour de budget. La grande question du jour, c'est dans quelle mesure le gouvernement provincial va-t-il s'aligner sur les recommandations de la commission Godbout? La commission Godbout, je vous le rappelle, ce sont des gens que le gouvernement de Philippe Couillard a mandatés pour examiner comment on finance l'État au Québec et comment on devrait le financer. Évidemment, ce sont des gens qui avaient des a priori avant de commencer leur travail. On s'en doute qu'ils étaient normalement compétents, donc il y avait des opinions, du moins on le souhaite. Et on choisit généralement ces gens-là en fonction des opinions qu'on espère avoir dans le rapport final. Mais il reste que, bon, Éric Desrosiers en a fait ses choux gras.
Oui, et François, vous le savez bien, tout le monde est d'accord pour qu'une réforme fiscale entraîne une augmentation de la part du voisin, qui est généralement considéré comme injustement avantagé, et une diminution de sa propre contribution, qui, elle, est estimée insupportable. Alors, comment naviguer dans ce casse-tête quand on est un gouvernement chargé de répartir l'impôt? Alors, effectivement, Éric Desrosiers s'est intéressé à la question sous un titre un petit peu provocateur qui est « Tout ça pour ça ». La fiscalité est une question importante mais aride et complexe où les grandes révolutions sont rares et les préjugés tenaces. On voit couramment les menaces de hausse de taxes ou les promesses de baisse d'impôts défrayer la manchette des journaux, mais on n'a pas souvent l'occasion de faire le point sur l'état et la logique générale de notre régime fiscal, comme nous invite à le faire le rapport de la commission Godbout dévoilé jeudi, dont vous parlez. Précédé de consultations publiques et de forums citoyens et accompagné de plusieurs dizaines d'études d'experts et de mémoires soumis par toutes sortes de groupes et de gens, ce rapport de plus de 700 pages constitue d'abord un impressionnant portrait d'ensemble de la situation. bien que d'un ennui mortel et reposant sur beaucoup plus de chiffres que peut en ingérer un esprit normalement constitué, ces questions sont essentielles. La fiscalité détermine les revenus de nos États modernes. Elle joue aussi un rôle dans le partage de la richesse, en plus d'être un puissant moyen de modeler les règles de fonctionnement de nos sociétés et d'influencer les comportements des individus. Je le répète, c'est le pilier de la démocratie. S'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de démocratie. La commission Godbout, et qu'on ne vienne pas me dire s'il n'y a plus d'impôts, il y a de la liberté en plus. La commission Godbout n'a pas cherché le moyen de réduire le poids global des impôts, mais de quelle façon on pourrait aller chercher cet argent le plus efficacement et avec le moins de dommages pour la croissance économique et l'équité du système possible. Elle a accepté comme un péréquisse la plus grande tendance au Québec qu'ailleurs en Amérique du Nord à favoriser un plus grand répartage. Répartage, j'ai une hésitation sur le mot. Mm-hmm. Répartition me paraîtrait quand même plus correct.
Un repartage peut-être,
ouais. Ouais, bon, mm-hmm. On ira vérifier chez Littré. Donc de la richesse entre mieux et moins nantis, ainsi que la répartition, il voulait pas dire deux fois le mot peut-être, actuelle du fardeau fiscal entre les particuliers et les entreprises. Alors, sa recommandation principale est de très légèrement réduire les impôts sur le revenu des uns et des autres et de compenser ces pertes par une hausse de 10 à 11% de la taxe à la consommation, l'augmentation d'autres tarifs, notamment de l'électricité, et une réduction de toutes sortes de crédits d'impôts. Elle propose à plus long terme qu'on s'inspire du modèle en vogue chez les experts appelé « imposition duale du revenu ». On applique un impôt progressif aux facteurs les moins mobiles, par exemple le revenu du travail, la consommation. Et un taux fixe plus bas sur les facteurs plus mobiles. Alors, qu'est-ce que c'est que les, par exemple, c'est les profits, c'est les gains qu'on peut faire.
C'est généralement
pour
l'argent
capital.
Des plus fortunés, on l'aura remarqué.
Évidemment. Mm-hmm. Ce rapport de la Commission est largement en phase avec ce qu'on entend ces temps-ci de la part des grandes institutions comme le CDE et autres experts internationaux, à une exception près. On y fait relativement peu de cas du virage vers l'éco-fiscalité, fortement recommandé un peu partout, si l'on exclut la hausse des tarifs d'électricité et de la taxe d'essence. Je crois que vous allez nous en parler tout à l'heure.
En détail.
On a aussi choisi de botter en touche certaines questions délicates, comme le principe d'utilisateur-payeur en santé et les frais de scolarité dans les universités. Alors, arrêtez avec ce genre de débat. Je veux dire, une société qui n'investit pas dans sa jeunesse et dans l'étude de sa jeunesse et qui ne pose pas ce problème comme étant définitivement différent des autres, d'une société foutue qui va se suicider.
Bon. Et une qui fait le contraire devient française.
Je suis sans voix, j'arrive plus à lire la suite, c'est pas possible. La commission Godbout estime que tous les changements qu'elle propose rapporteraient au Québec à terme 600 millions d'investissements supplémentaires, 20 000 emplois de plus, pour un ajout de 2 milliards à son produit intérieur brut. Ce ne serait pas si mal, mais quand même moins de 1% du PIB. La commission Godbout se défend en disant qu'elle s'est fiée au modèle de simulation du gouvernement et a préféré se faire conservatrice. D'autres estimations de l'OCDE feraient miroiter un gain de 1,2% à 4,6% du PIB. Elle ajoute que l'impact du répartage, de la répartition de l'assiette fiscale aurait pu être plus grand si le Québec avait disposé de plus de marge de manœuvre pour augmenter les taxes à des endroits et les baisser ailleurs. Mais comme presque toutes ces taxes sont parmi les plus élevées en Amérique du Nord, il ne peut presque plus les augmenter nulle part. Le rapport Godbout n'avait pas encore été imprimé qu'on y réagissait déjà avec des arguments usés à la corde. Les uns répètent sans cesse, par exemple, que les taxes, les dépenses publiques et la dette dépassent toute mesure au Québec et sont le fruit d'un interventionnisme débridé. Or, à défaut d'entendre les nuances apportées à ce sujet par la Commission, ces voix donneront peut-être crédit à l'étude qu'elle a commandée au FMI et où l'on observe que ce sont surtout le reste du Canada et les États-Unis qui se démarquent des autres pays développés à ce chapitre. Les autres radotent qu'une baisse des impôts en échange d'une hausse des taxes à la consommation conduira nécessairement à un régime fiscal plus régressif, alors que pas plus tard que mardi, une étude commandée à l'IREC par la Centrale des syndicats du Québec rappelait pour une énième fois que c'est exactement le contraire qui s'est produit au Québec les 15 dernières années, grâce notamment aux transferts sociaux aux plus démunis que le rapport Godbout propose aussi d'augmenter. Je disais Godbout, c'était peut-être... en attendant Godbout, c'est ça. Excusez-moi.
Ouais. C'est boiteux ce matin.
C'est vraiment lamentable, oui. Finalement, la plus grande contribution et le plus grand défi de ce rapport ne sera peut-être pas là où on le croit. Ce serait déjà bien s'il permettait de lancer sur de meilleures bases factuelles un débat ouvert et éclairé sur l'enjeu ennuyant mais important de notre régime fiscal. Voilà de quoi ramener les choses à leur juste proportion, peut-être.
Et faut-il le dire ici, ça pose plusieurs questions, mais une des questions qui, à mon sens, n'a pas été posée, c'est le paradigme de départ. Le paradigme de départ, c'est on est dans une économie mondialisée, on ne peut pas empêcher les capitaux de se déplacer, alors il faut donc moins les imposer. Alors, en bout de piste, on est coincé pour ne pas imposer les revenus qui sont, comme vous le disiez, des bénéfices, des profits ou des gains de capitaux, ou le moins possible, parce que ces revenus-là vont aller ailleurs. Ça revient à dire « taxons moins les riches ». Ça, c'est angoissant. Alors, vous en parliez tout à l'heure, éco-fiscalité. Le même journaliste, Éric Desrosiers, s'est fendu d'un article sur le sujet quelques jours plus tard, le 25 mars, donc hier. Un texte intitulé « Un Québec plus vert, mais pas plus cher ». Et on va voir que l'éco-fiscalité, c'est une tendance qui pourrait être très intéressante pour un territoire comme le Québec, qui justement jouit d'une énergie très particulière. L'adoption d'une réforme fiscale écologique ambitieuse permettrait d'ici 10 ans de réduire la congestion routière de 13 % d'augmenter de moitié l'utilisation des transports en commun et de diminuer du tiers les émissions de gaz à effet de serre, tout en le faisant à coût nul pour les contribuables et en améliorant leur niveau général de bien-être, estime une étude commandée par la Commission Godbout. Et j'apporte une précision ici. Généralement, quand on dit à coût nul pour les contribuables, ça veut dire que en moyenne, c'est nul. En pratique, il y a des perdants et des gagnants. Un tel régime reposerait notamment sur l'imposition de taxes qui viserait à mieux refléter les véritables coûts économiques, environnementaux et humains infligés par l'utilisation des carburants fossiles, la congestion routière ou encore l'étalement urbain. Le quart de leurs recettes pourrait aller au financement d'activités moins dommageables pour l'environnement, alors que les trois quarts seraient retournés en baisse d'impôts et en taxes aux contribuables, explique Luc Gagnon, Jean-François Lefebvre et Jonathan Théoret du groupe de recherche appliquée en macroécologie, le GRAM, dans leur étude de 70 pages pour la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, présidée par l'expert en fiscalité Luc Godbout. Dans son propre rapport dévoilé jeudi, la Commission a dit constater que l'éco-fiscalité comporte des avantages pour corriger les imperfections du marché en permettant, entre autres, d'incorporer dans les prix le coût des externalités négatives. C'est quoi une externalité négative? Eh bien, par exemple, quand une compagnie pollue l'air ou prend de l'eau, elle ne paie pas pour ça ou rarement. En pratique, elle nous enlève à tous quelque chose, alors il est normal que ce coût-là soit reflété dans le produit de façon à permettre ensuite la dépollution, si vous me passez l'expression. Donc, une externalité négative, ça consiste à dire tout ce que le produit vous coûte vraiment ou coûte vraiment à l'ensemble de la communauté doit être considéré dans le prix du produit. Bon. En plus d'apporter au gouvernement des revenus supplémentaires et d'augmenter l'efficacité économique, surtout si les nouveaux revenus permettent une diminution de l'impôt sur le revenu. Évoquant la complexité de l'éco-fiscalité et expliquant que certains de ces changements demandent une réflexion et une discussion plus approfondie, la Commission a dit préférer cette fois limiter le nombre de ses recommandations à court terme. Parmi elles, on retrouve une hausse de la taxe d'essence de 1 cent le litre par année, une augmentation des tarifs d'électricité d'un peu moins d'un cent le kilowatt-heure et l'imposition d'une taxe à la surconsommation d'électricité. Oh là, tout de suite, je sens qu'on se hérisse, on se dresse sur nos sièges et on dit jamais. On va voir que c'est pas si, pas si simpliste qu'on le pense, là. Pour le reste, le rapport Godbout a encouragé le gouvernement à suivre de près les recherches et les expériences en la matière, ici comme ailleurs, disant qu'il pourrait, par exemple, un jour adopter une tarification de l'électricité variant selon la période de la journée, taxer l'utilisation de l'eau ou encore imposer des péages sur les routes et les ponts. L'étude du GRAM déboulonne certains mythes, comme le fait que les taxes sur les carburants permettraient aux automobilistes de payer leur juste part des coûts qu'ils engendrent, que l'émergence des automobiles électriques suffirait à éliminer les impacts environnementaux des voitures ou encore qu'il manquerait des espaces de stationnement dans les centres commerciaux. Dans les faits, écoutez bien ça d'ailleurs, un usager typique de l'automobile paie chaque année au Québec environ 250 $ en taxes fédérales et provinciales sur l'essence, alors qu'une seule voiture coûte chaque année environ 3300 $ en autoroute, entretien, stationnement gratuit, pollution, accidents, surveillance policière et autres terrains qui auraient pu être utilisés à autre chose. Si les utilisateurs devaient assumer le véritable coût marginal de leur place de stationnement dans un centre de commercial avant Noël, note-t-on, celle-ci leur coûterait au moins 200 $. Bien que le gouvernement ne parvienne déjà pas à entretenir décemment les infrastructures existantes, il continue chaque année d'investir des milliards dans la construction de nouvelles routes, puis de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux et quoi d'autre encore, afin de répondre aux besoins de municipalités qui s'étendent toujours de plus en plus loin des grands centres urbains, mais aussi de leurs propres centres-villes, rappelle l'étude du GRAM. Elles peuvent se le permettre parce que Québec paie souvent 100 % des nouvelles infrastructures, alors que si elles devaient payer 30 ou 40 % des investissements, il est probable qu'elles demanderaient de nouvelles infrastructures uniquement lorsque cela est vraiment requis. Empruntant des idées à toutes sortes de précédents, notamment en Colombie-Britannique, les auteurs de l'étude présentent le scénario d'un régime fiscal écologique qui porterait, d'ici 2020, le prix des émissions de gaz à effet de serre à sa bourse du carbone de 17,40 $ à 30 $ la tonne. Il augmenterait aussi la taxe sur les carburants de 10 cents le litre, imposerait une taxe de 2 $ par jour par place de stationnement d'entreprise ou de commerce, à moins que cette place ne soit déjà payante. Instaurerait des péages sur les grands axes routiers, équivalent à 7,50 $ pour un Montréal-Québec. Les trois quarts des recettes annuelles des 1,8 milliard seraient retournés en baisse d'impôts aux contribuables et aux entreprises, notamment aux plus démunis et à ceux qui résident dans les régions éloignées. Les 450 millions restants iraient au transport collectif et à tout autre projet visant à réduire l'empreinte écologique des déplacements. Pour être acceptable par tous, ces projets ne devraient pas se limiter aux grandes villes. Un tel régime pourrait avoir des résultats spectaculaires en moins de 10 ans. Le GRAM estime qu'il pourrait réduire le nombre de déplacements en auto en période de pointe de 15 %, augmenter celui du transport en commun de 47 %. Et ce qui est génial, si vous augmentez le transport en commun, c'est que la qualité du service augmente aussi. C'est le principe de l'utilisateur qui génère le service. Diminuer la congestion routière de 13 % et les émissions de gaz à effet de serre de 30 %. La moitié des ménages les moins riches verraient ses coûts de transport réduits substantiellement, alors que l'autre moitié les verrait très légèrement augmenter. Au total, il n'en coûterait pas plus cher aux consommateurs et le bien-être social général, la richesse disponible, augmenterait de 11 %. Certes, la précision de ces chiffres demeure contestable, comme toute modélisation, admettent les auteurs de l'étude. Mais ces résultats reflètent néanmoins des tendances de fond qui démontrent que les seules juridictions qui réussissent à réduire substantiellement leur dépendance au pétrole sont celles qui ont à la fois adopté des écotaxes dédiées à financer les transports collectifs et d'autres intégré une réforme fiscale écologique plus vaste. Voilà, est-ce que c'est le monde qu'on veut ou est-ce que c'est le monde qu'on ne pourra pas éviter? Tout ça, c'est une question de temps. On veut du green
On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut du
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green washing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
On veut des
des cils sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, 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 green washing.
Trio qui chantait Greenwashing, une belle suite à mon texte sur l'éco-fiscalité. Quand je dis mon texte, on aura deviné que c'est d'Éric Desrosiers, mais on aime bien comme ça s'approprier les sujets ici. Donc, Rémi Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission et les choix musicaux. Si vous aimez pas ce que vous entendez, plaignez-vous de Rémi. Si vous aimez ce que vous entendez, saluez le choix éditorial des animateurs. Bon! Ceci dit, il est temps de parler de pétrole. Ça fait des semaines que je me retiens de vraiment parler de pétrole parce que je me dis, on en parle tout le temps, mais cette fois-ci, je peux pas. Je peux pas. Il faut que je craque, voilà. Un texte de l'agence France Presse qui nous vient de Calgary. Un texte de Lauren Krugel intitulé « La chute des prix du pétrole aura des effets à long terme ». Je pense que tout est dit dans le titre, mais on va aller dans le détail quand même un peu. Le Conference Board du Canada avait de bien mauvaises nouvelles mercredi pour ceux qui espèrent voir disparaître bientôt les difficultés occasionnées par le plongeon du cours du pétrole brut. Selon le groupe de recherche, l'industrie pétrolière du pays verra ses revenus diminuer de 37 % cette année, affichera une perte avant impôt de 3 milliards de dollars et comptera 8 000 emplois de moins qu'en 2014. En outre, il est peu probable que les entreprises se relèvent aussi rapidement qu'aux dernières fortes baisses du prix du pétrole en 2008 et 2009, a ajouté le Conference Board. À l'époque, le cours du brut avait reculé considérablement, passant de 140 $ américains à 33 $ américains sur une période de 6 mois, mais en 2011, il avait déjà regagné le cap des 100 $ le baril. Le prix du baril de pétrole est actuellement inférieur à 48 $ américains alors qu'il était de 107 $ en juin. Selon le Conference Board, le prix du baril ne devrait pas dépasser les 80 $ américains d'ici 2019. La faiblesse des cours du brut est attribuable à un énorme déséquilibre entre l'offre et la demande mondiale. La technologie de fracturation, et on reviendra là-dessus, a permis d'accéder à d'énormes volumes de brut dans les formations de schiste aux États-Unis, un des principaux facteurs derrière la surabondance de l'offre. La période du pétrole à plus de 100 $ est passée pour l'instant. Maintenant que le génie de la technologie du forage horizontal et de la fracturation hydraulique en plusieurs étapes est sorti de la bouteille, l'industrie américaine sera capable de réagir rapidement et d'augmenter la production si les prix remontent jusqu'à 80 $ américains, ce qui mettra un plafond ferme sur les prix, a indiqué le Conference Board dans son rapport. Et ça, c'est très important. Il va donc y avoir une espèce de fusible sur le marché qui va faire en sorte que le pétrole ne pourra plus remonter jusqu'à au-dessus de 100 $, tout simplement parce que s'il monte trop haut, maintenant, on remet en production les puits de gaz de schiste et le prix redescend. Bon. Les projections du groupe de recherche jusqu'à 2019 sont inférieures d'environ 30 $ américains à celles qu'il avait présentées au premier trimestre de 2014. Les 56 milliards de dollars investis en 2014 par les pétrolières canadiennes pourraient s'avérer être un sommet pour les investissements pétroliers au Canada, fait valoir le rapport. Les dépenses devraient se chiffrer à environ 44 milliards cette année et à 40 milliards l'an prochain, avec une modeste reprise en 2017. Plusieurs projets de sable bitumineux ne sont plus économiquement réalisables au prix d'aujourd'hui. Pour qu'un projet d'extraction du bitume par injection de vapeur soit rentable, le prix du baril doit être entre 60 et 80 $. Pour un nouveau projet à ciel ouvert, il doit atteindre entre 90 et 100 $ américains. Cependant, les projets de sable bitumineux ne peuvent être fonctionnels qu'après de longs préparatifs et des milliards de dollars ont déjà été investis dans certains d'entre eux. Conséquemment, La production d'ensemble devrait avancer cette année à 3,8 millions de barils par jour, comparativement à 3,5 millions de barils par jour l'an dernier. Et j'ajoute en terminant, c'est particulièrement intéressant, je vous parle d'un autre texte qui a été publié sur ce que font les pétrolières américaines actuellement pour survivre à la baisse du baril, parce qu'on vient de le voir, il y a plein d'entreprises qui ont lancé des projets de gaz de schiste, qui ont donc investi massivement. Le prix du baril descend, leur production n'est plus rentable, on doit arrêter de produire, mais on a quand même investi. Alors, pour plein d'entreprises, c'est la panique financière. Comment on va traverser la crise? Alors, on voit actuellement aux États-Unis des entreprises pétrolières qui vont chercher à emprunter aux alentours de 6 % jusqu'à 11 % par an pour tenir le coup. D'autres qui vont émettre du capital action pour diluer leurs avoirs, histoire d'avoir des liquidités jusqu'à ce que le prix remonte. D'autres, enfin, qui envisagent tout simplement de mettre la clé sous la porte. L'industrie pétrolière ne sera plus jamais, jamais la même.
Alors, des nouvelles de New York et des nouvelles des taxis. Alors, tout le monde connaît ces merveilleuses voitures jaunes qu'on hèle si facilement. Eh bien, figurez-vous que les chauffeurs Uber sont plus nombreux que les taxi drivers. Et c'est absolument une vague qui semble ne pas vouloir s'arrêter. Il y a 14 088 véhicules Uber dans les 5 arrondissements de la Grosse Pomme, tandis que le nombre de taxis jaunes, lui, ne s'élève qu'à 13 857.
Le piéton va se sentir plus en sécurité. Je vous parle d'eau à travers le monde, en fait, puisque l'ONU a annoncé que, éventuellement, si les pratiques actuelles changent, ben on va manquer d'eau. Il se pourrait qu'en 2030, on dispose seulement de 60 % de l'eau potable dont on a besoin à travers la planète. C'est un problème qui nous rejoint nettement moins au Québec. Mais voyez-vous, ça lance des négociations très sévères. Par exemple, cette semaine, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se sont enfin entendus sur la répartition des eaux du Nil, plus particulièrement du Nil bleu en ce qui concerne l'Éthiopie. Là, c'est une des sources du Nil. Il y a le Nil bleu, le Nil blanc va au lac Victoria, le Nil bleu à Sana. Eh bien, il faut savoir que les Éthiopiens ont construit un très, très, très vaste barrage. Que remplir ce barrage-là, ça pourrait priver l'Égypte de 20 % de toute son eau pendant les 3 à 5 ans qui viennent. Résultat, il fallait nécessairement s'entendre ou faire la guerre. On s'est entendu, c'est une bonne nouvelle. On fait une courte pause et on revient pour la deuxième moitié de cette émission.
Vous écoutez Kiosk Magazine.
Et on reprend en vous parlant encore de pétrole. On s'était retenu longtemps.
Non, oui, donc il faut
on
que ça
a
sorte.
Le droit, on a le droit. Il faut que ça jaillisse. C'est le pétrole, voilà. C'est
oui,
rien à faire.
Oui. Alors, vous savez, François, une des grandes questions des temps modernes, c'est de savoir si on peut encore longtemps définir la notion de progrès comme on l'a fait jusqu'à présent. En gros, qu'est-ce que c'est que le progrès aujourd'hui? C'est nombre d'habitants par quantité d'énergie. Hein? Et ça semblait tout à fait naturel et pas besoin d'être remis en question. Mais je crois que cette mesure, surtout si elle se définit par une augmentation effrénée de ce ratio, eh bien, ça soit surtout celle de la destruction de l'humanité. Alors, peut-être on peut commencer par la fracturation hydraulique pour réfléchir sur cette grande question. Un journaliste du Monde qui s'appelle Stéphane Lauer nous parle de la façon dont les États-Unis s'attaquent à la réglementation de la fracturation hydraulique. J'ai vraiment été content de tomber sur cet article parce que si on m'avait demandé il y a encore 3 mois est-ce que ça vous paraît possible, j'aurais répondu ça c'est vraiment le dernier truc qui va arriver. Bon, ben, on peut être surpris. Toujours pareil avec les États-Unis, dès qu'ils commencent à détruire le monde et dès qu'ils s'arrêtent, ils le sauvent et puis réciproquement. Bizarre, hein? La fracturation hydraulique va commencer à être encadrée par le gouvernement américain. Celui-ci a effectivement annoncé vendredi 20 mars une série de règles contraignantes concernant cette technique de forage, notamment utilisée dans l'extraction du gaz et du pétrole de schiste. Cette régulation, vivement contestée par les entreprises du secteur, était en cours de discussion depuis 2012. La fracturation hydraulique, qui consiste à injecter de l'eau, du sable et des produits chimiques dans le sous-sol pour y récupérer le pétrole et le gaz difficiles à extraire, suscite de plus en plus d'opposition aux États-Unis. Il y a beaucoup de craintes et d'inquiétudes de la part du public, particulièrement à propos de la sécurité de l'eau souterraine et de l'impact sur ces opérations, explique Sally Jewell, la secrétaire à l'intérieur, c'est-à-dire la responsable de l'exploitation des ressources naturelles et de la gestion des terres publiques aux États-Unis. Le Bureau de gestion des terrains du département de l'Intérieur a reçu des contributions de plus de 1,5 million de particuliers et d'associations. « Nous pensons que ces normes sont essentielles », ajoute-t-elle, en soulignant que la réglementation actuelle date d'il y a 30 ans et qu'elle n'est plus adaptée à la situation actuelle. Les mesures annoncées vendredi vont obliger les groupes pétroliers et gaziers à renforcer l'étanchéité de leurs puits et des tests seront systématiquement effectués pour vérifier la qualité des parois en ciment, censé empêcher la contamination des nappes phréatiques. Les sociétés devront aussi publier dans un délai de 30 jours quels produits chimiques elles injectent dans le sol pour permettre l'extraction.
Oh, que ça va faire mal.
Oui, ça va faire
ça,
mal.
Ça, c'est le secret industriel.
Ouais, ouais, ouais. Surtout quand on nous serine que les produits chimiques, c'était l'ancienne technique et qu'aujourd'hui, on ne met plus que de l'eau. Allons donc voir. Ce sujet est une question sensible pour les compagnies pétrolières qui sont très jalouses de leurs secrets industriels. Ainsi, récemment en Caroline du Nord, Halliburton a fait un intense lobbying pour faire passer une loi qui condamne toute personne qui divulguerait la liste des produits chimiques utilisés pour la fracturation hydraulique. Comment est-ce qu'on peut faire une loi avec ça? C'est quand même incroyable. Avant de commencer, c'est pas contre le premier amendement, bon enfin, passons. Avant de commencer un forage, les compagnies pétrolières et gazières devront également fournir davantage d'informations concernant le stockage des fluides toxiques utilisés. Elles devront par ailleurs sécuriser les eaux usées dans des réservoirs couverts au lieu de les évacuer, comme c'est parfois le cas, dans des fosses creusées à même le sol. Les compagnies devront aussi détailler comment elles comptent éliminer ces produits toxiques. Enfin, elles auront à fournir plus d'informations concernant les réserves d'eau situées à proximité du forage afin que celles-ci soient protégées. Vous voyez, François, si vous voulez une bonne raison d'augmenter le prix du pétrole, là, vous en avez peut-être une. Hein, parce que quand on aura comptabilisé tous ces coûts et qu'on aura mis en pratique ces réformes, ça va peut-être modifier le prix du baril. Hein.
Les externalités négatives, mais ça, c'est le vrai prix du pétrole.
Absolument.
C'est ce qu'il faut compter, la décontamination.
Absolument. Ce premier pas vers une réglementation est toutefois limité dans la mesure où elle ne vise que les terrains qui sont la propriété de l'État fédéral. Cela ne représente que 11% du gaz naturel exploité et 5% des gisements de pétrole. Environ 100 000 puits sont concernés au total. La grande majorité de l'extraction se déroule en effet sur des espaces privés ou appartenant aux États fédérés qui restent libres d'appliquer leurs propres règles. Là, on voit tout de suite le truc redescendre très très vite. Certains, comme New York, qui ont interdit totalement la fracturation, tandis que d'autres, comme le Colorado, ont commencé à réguler le secteur. Mais beaucoup sont encore muets sur le sujet. Cela n'a pas empêché les compagnies pétrolières de protester vigoureusement contre cette nouvelle réglementation. Elles craignent notamment que ces mesures commencent à inspirer certains États pour mettre en place des règles plus contraignantes. Elles dénoncent également les coûts que cela va engendrer. Même si les mesures interviennent à un mauvais moment pour l'industrie, alors que le prix du baril a chuté de 50% en un an, l'impact financier serait relativement limité. Le montant global pour le secteur a été évalué par le gouvernement à 32 millions de dollars par an, soit à peine 1% du coût d'exploitation moyen d'un puits.
Mais c'est le principe,
oui, bah évidemment.
J'ai le droit de faire des trous, j'ai le droit d'aller chercher le pétrole.
C'est ça, oui. La réaction, ma liberté commence là, oui, c'est ça. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi est négociable, c'est ça, ouais, d'accord. Donc les réactions du lobby pétrolier ont été immédiates. Quelques minutes après la publication des nouvelles règles, l'Independent Petroleum Association of America a déposé plainte, qualifiant ces mesures de réaction à des préoccupations non fondées. Déjà, le flou de l'intitulé, on peut mettre tout ce qu'on veut, y compris probablement la restauration de la peine de mort par pendaison simultanée avec le peloton. C'est à ça que je pensais.
Pleton d'exécution en Utah, oui.
C'est plus sûr. Vous savez d'ailleurs que les produits qui étaient utilisés pour l'injection étaient fournis par la France, par un laboratoire français.
Et c'est parce que la France
a refusé.
Et c'est maintenant à cause de ça qu'on a fait des essais dramatiques aux États-Unis et qu'on pense rétablir le peloton d'exécution. Ouais. Mais enfin, on s'écarte de notre sujet.
Non, mais bon, moi je tiens à signer que cette réaction du labo était une de mes rares raisons de me sentir fier d'être français. Bon, pour Barry Ross, le responsable de l'organisation de la Californie à la Pennsylvanie, l'industrie du pétrole et du gaz naturel a joué un rôle crucial dans la relance de l'économie américaine et la fracturation hydraulique a été la clé de cette renaissance. Cette nouvelle réglementation fédérale va ajouter des coûts pour nos producteurs indépendants. proteste-t-il, pronostiquant que le dispositif va conduire à faire fuir les investissements et peser sur les créations d'emplois. Ça, c'est l'épouvantail habituel. 24 heures auparavant, le sénateur républicain de l'Oklahoma, James Inhofe, a tenté de couper l'herbe sous le pied du gouvernement en proposant une législation visant à interdire à l'État fédéral de réguler la fracturation hydraulique, laissant le champ libre aux États fédérés. En annonçant cette nouvelle réglementation, Barack Obama a ouvert un nouveau front avec les républicains, désormais majoritaires au Congrès.
Puisque, donc, faut-il le dire, les républicains, effectivement, sont plus fortement appuyés par le lobby du pétrole, alors que traditionnellement, les démocrates le sont par celui du tabac. ce qui fait que quand un parti vient au pouvoir, ben, y a certains types d'actions qui montent et certains types d'autres qui descendent. Alors, c'est l'effet actuellement. On est reparti pour un autre tour. Travailler moins, est-ce que c'est possible? Travailler selon des horaires aménagés, est-ce que c'est possible? Et est-ce que ça peut faire la différence entre rester en poste ou changer d'emploi? Il semblerait que oui, de plus en plus. Et ça a attiré l'attention de Anne Gagnard, qui est une collaboratrice de La Presse, dans un texte publié le 23 mars sous le titre « Patron, je veux travailler 4 jours », moi aussi d'ailleurs. Un employé qui fait un temps plein en 4 jours, un autre qui travaille 3 jours par semaine, un troisième à 5 jours, avec l'avènement des générations X et Y, la féminisation du marché du travail et la raréfaction de la main-d'œuvre qui donne plus de pouvoir aux travailleurs, les entreprises doivent composer avec du temps partiel et des emplois du temps presque individualisés, tout en restant compétitives. Une gageure? Non. Marc Nellis, président propriétaire de Croisière francophone, arrivait de son Europe natale et il est d'origine belge lorsqu'il a repris une agence de voyage spécialisée dans les croisières à Montréal en 2007. Un de ses premiers sujets d'étonnement, des employés qui demandent à travailler 3 ou 4 jours par semaine ou partent chercher un autre employeur. Lui, qui était habitué à un marché du travail tendu en Europe, ce qui laissait peu de place aux exigences des travailleurs, il a appris qu'au Québec, les chefs d'entreprise doivent aussi faire preuve de souplesse. Il s'y est fait. Ça demande une certaine adaptation, d'autant que j'ai 50 ans, donc je suis plutôt de la vieille école, dit-il dans un sourire. Mais comme c'est difficile de recruter du personnel de qualité, on ne peut pas être rigide. Aujourd'hui, son entreprise compte 10 employés. Les 2 salariés du bureau de Québec, des femmes en fin de carrière, travaillent chacune 3 jours seulement. Elles sont ensemble à l'agence le mercredi, ce qui permet de faire le lien. Et avec les technologies ainsi qu'une bonne organisation, ça fonctionne bien, reconnaît Marc Nellis. Les avantages pour l'entreprise, lorsque les contraintes sont bien gérées, sont des salariés satisfaits et aussi une flexibilité qui peut être pratique pour la gestion des affaires et la réduction des charges, poursuit l'entrepreneur. L'exemple de Croisière francophone est loin d'être exceptionnel. Mes études ont montré que la semaine de 4 jours est très demandée par les travailleurs, constate Diane Gabrielle Tremblay, CRHA, professeure à l'École de sciences de l'administration de la Téléuniversité, qui s'est intéressée au thème de la conciliation travail-famille. Le désir de travailler moins vient de toutes les générations, mais principalement des personnes qui ont de jeunes familles et des seniors qui veulent continuer à travailler, mais à un rythme moins exigeant, observe la chercheuse. Parfois, il s'agit de faire le même nombre d'heures en moins de jours, en rallongeant la durée des journées de travail. Parfois, les travailleurs conservent leurs 7 ou 8 heures de travail habituelles, quitte à voir leur salaire amputé en conséquence. On voit de plus en plus de gens prêts à faire un sacrifice salarial pour un aménagement du temps de travail, poursuit Diane Gabrielle Tremblay. Et c'est une des problématiques à laquelle s'intéressait la commission Godbout, à savoir il faut stimuler l'envie de travailler. Or, quand ça devient intéressant de faire moins d'heures et d'être moins payé parce qu'on paye trop d'impôts, ben on devient moins productif. Et c'est une des tendances qu'on voulait renverser avec la nouvelle fiscalité. Une évolution que les entreprises tardent pourtant à suivre, regrette la professeure. Elles avancent souvent que c'est compliqué d'accéder à cette demande et elles craignent de créer un précédent, mais elles devraient l'utiliser comme un avantage concurrentiel dans le contexte de rareté de main-d'œuvre actuelle. C'est également une source de loyauté, tandis que les entreprises se plaignent souvent que les travailleurs changent trop souvent d'employeur, fait-elle valoir. Certes. mais le milieu des affaires plaide qu'il est pris en tenaille entre les desiderata de ses travailleurs et la nécessaire continuité du système de fabrication dans le domaine manufacturier, ainsi que les impératifs de productivité dictés par une concurrence souvent féroce et aujourd'hui mondialisée. Pas simple. Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, résume ainsi l'équation. Elles doivent non seulement survivre dans un monde très compétitif, mais aussi retenir les talents, ce à quoi participe l'aménagement du temps de travail. Mais même si ce peut être un casse-tête, reconnaît Yves-Thomas Dorval, on peut le considérer comme une occasion plutôt qu'une menace. Certes, tous les domaines d'activité ne peuvent facilement accepter les réductions du temps de travail. L'industrie minière, notamment, ou le secteur manufacturier, pourront plus rarement accéder à ces demandes que celui des services, où subsistent néanmoins des défis, souligne le PDG du Conseil du patronat. Mais quand c'est possible, cela peut être source de productivité. Souvent, les travailleurs à 4 jours sont plus productifs car ils ont l'esprit libre. Pendant leur journée de repos, ils font une foule de choses personnelles qui les accompagneraient sinon au travail. Changer les pneus de la voiture, téléphoner au plombier, prendre un rendez-vous médical, etc. Il y a moins de présentéisme, poursuit M. Dorval. Accepter que des travailleurs soient présents dans l'entreprise à temps partiel exige dans tous les cas une réorganisation souvent salutaire. Ça brasse forcément l'entreprise. Et ça peut avoir des conséquences positives, affirme Diane-Gabrielle Tremblay. Ainsi, cela peut la pousser à investir dans la technologie ou l'automatisation, ajoute Yves-Thomas Dorval, qui cite l'exemple de l'Allemagne, dont les habitants travaillent moins en moyenne par an que le Québec. Ça, c'est particulier, on ne le savait pas, mais effectivement, les Allemands travaillent moins d'heures que les Québécois. Mais ont une meilleure productivité, notamment grâce aux investissements des entreprises pour adapter leurs processus. Avec l'arrivée sur le marché des nouveaux gestionnaires, même s'ils ne font pas toujours preuve d'autant d'audace qu'on pourrait s'y attendre, regrette Diane-Gabrielle Tremblay, il se pourrait que les semaines de 4 jours connaissent un franc essor dans les prochaines années. C'est une tendance lourde. Je vous rappelle que, par exemple, à Montréal, dans le secteur des services, les vendredis d'été après-midi sont généralement... les bureaux sont fermés puisque les gens allongent leur fin de semaine en prenant une heure de plus ailleurs sur la semaine. Bref, le temps, ça peut s'aménager et on peut travailler pour soi autant que pour l'entreprise.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je veux seulement oublier.
Pink Martini, sympathique. C'est déjà le moment de notre dernier grand sujet de la journée. Ah, vous allez nous parler, non, mais de téléphone intelligent. Je dis à dessein parce que je sais que l'expression vous irrite les conduits auditifs.
Oui. Mais pas seulement, j'ai regardé les boutons qui sont en train de me pousser sur les mains. Bon, écoutez, je vais alimenter mon agacement. Les téléphones intelligents sont aussi des téléphones espions. Eh bien, comme tous les bons espions, ce sont des dissimulateurs et des menteurs. Ça nous éloigne encore davantage de cette notion d'intelligence honteusement associée au téléphone. Alors, comment cette escroquerie est-elle organisée? N'ayons pas peur des mots. Ça a intéressé un journaliste du Monde, Jean-Baptiste Duval, et qui nous révèle 5 choses qu'Apple sait sur votre vie privée. Chaque iPhone, iPad et iPod est vendu avec une documentation aussi longue qu'indigeste. Excusez-moi.
Et que personne ne lit jamais. Et pourtant, je suis juriste, je devrais le faire. Mais non, quand il vient le temps d'approuver une mise à jour, j'approuve la mise à jour sans discuter. Je fais approuver. Êtes-vous d'accord avec... Oui, et je lis pas. Voilà.
Eh ben, vous avez tort, François. Parce que pour Apple, il est parfaitement légal d'ingurgiter toutes ces données personnelles puisque vous en avez donné l'autorisation sans le savoir. Ça vous dit rien, hein? Ben évidemment, vous n'avez pas lu les conditions générales. Mais si vous plongez dedans, et notamment dans le paragraphe politique de confidentialité, eh bien, il faut savoir que vous l'avez accepté dès la mise en route et puis à chaque mise à jour. Alors, c'est un langage extrêmement vague qui concerne les données personnelles. Eh bien, les documents restent flous de façon à ce que Apple puisse garder les informations à travers tous les scénarios. Alors, on va être très concret, parce que ça a l'air d'être uniquement un catalogue de mauvaises intentions. Mais je vais vous citer 5 cas, enfin le journaliste cite 5 cas très précis. Alors, premièrement, Siri. Alors Siri, vous savez ce que c'est? C'est ce petit micro sur votre iPhone. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez envoyer un texto simplement en parlant au micro et c'est traduit immédiatement en mots. C'est d'ailleurs une application remarquable parce que ça marche à peu près sans erreur. Et évidemment, ça vous permet d'envoyer des textos très, très rapidement.
Et d'avoir l'air fou dans le métro.
Oui, il suffit d'avoir un téléphone, mais bon. Alors, sachez que quand vous dictez, un prestataire d'Apple a le droit de vous écouter. Apple a le droit d'utiliser et partager tout ce que vous mettez dans vos messages audio, notamment les noms, les pseudonymes et les relations entre vos contacts et vous-même. Charmant, hein? Alors, ensuite, des informations dites non personnelles. Parce que la politique de confidentialité d'Apple divise les informations en 2 camps, personnelles et non personnelles. Déjà, ça commence très mal. Elle insiste bien sur le fait qu'elle ne communique pas les infos personnelles au service marketing. Mais ces 2 catégories ne sont pas définies avec le même luxe de détails. La définition du caractère personnel d'une information est très étroite. Elle se limite au nom, adresse, email, numéro de téléphone, préférence de contact et numéro de carte bancaire. Des données ultra sensibles qu'Apple n'utilise que pour l'amélioration de ses produits et des publicités. Vous voyez déjà un peu le serpent là ? D'un autre côté, les données non personnelles recouvrent un domaine beaucoup plus large qu'Apple peut partager.
Alors, ADN est non personnel aux yeux d'Apple.
Je vais vous les citer. Le métier, le code postal, l'identifiant de l'appareil, l'URL de référence, la localisation de l'appareil, etc. On peut également collecter des informations sur les activités des clients par l'intermédiaire du site web, des services iCloud, de l'iTunes Store et à partir d'autres produits services. Alors, ces données, elles sont non personnelles parce qu'elles ne permettent pas à elles seules votre identification directe. C'est dingue, c'est vraiment des jésuites monumentaux. Malgré tout, il est certainement possible d'extraire de ce fatras de données insignifiantes des dossiers complets sur de véritables personnes. Alors ensuite, où se trouve votre téléphone? N'importe quel service, quelle qu'en soit la définition qui a recours à la localisation, peut connaître votre position. Puisque nous emmenons notre smartphone à peu près n'importe où, notre journée entière peut potentiellement être cartographiée. Surtout, ces données peuvent être conservées. Quatrième exemple, à quelle vitesse on se déplace? Toute application qui utilise vos données de géolocalisation peut récupérer les informations relatives à la vitesse de votre parcours. A priori, ça intéresse surtout celles qui donnent des informations sur le trafic routier. Dans les faits, il existe au moins un exemple où des données liées à la vitesse ont été détournées dans un but précis. En 2011, les GPS TomTom ont dû présenter leurs excuses pour avoir transmis ce type d'informations à la police néerlandaise qui les a ensuite utilisées pour placer des radars. Cela dit, ça, je trouve que c'est très bien. Ensuite, tous vos messages, pendant une période limitée, on ne dit pas quelles sont les limites. Pour s'assurer que les e-messages sont bien envoyés, ça c'est le prétexte, Apple les stocke sous forme cryptée. 1 minute, 1 an, 1 siècle, on ne sait pas. Alors, écoutez, franchement, je trouve que... Alors, le bonus, là, vous allez voir. Les conditions d'utilisation d'Apple iOS, donc c'est le système d'exploitation, signalent qu'en utilisant son logiciel, en connexion avec un Apple ID ou un autre service Apple, vous acceptez les termes et conditions applicables à ce service. En clair, vous acceptez les termes et conditions d'iTunes rien qu'en le faisant tourner sur votre iPhone. C'est à peu près comme si, en allant acheter votre baguette de pain, vous preniez l'engagement d'acheter votre kilo de viande au prix fixé par le boucher dans le magasin duquel vous n'êtes pas rentré.
Mm-hmm. Ceci dit, on parle ici d'Apple, mais il faut bien comprendre que c'est le cas de la plupart des services de fournisseurs d'informations. Facebook, oui, notamment, fait son argent en vendant vos données personnelles. D'ailleurs, faites un test à la maison si vous voulez défier les algorithmes. Mettons que vous ne vous intéressez pas du tout au voyage. Dans les 2 ou 3 prochains jours, en allant sur Facebook, regardez les publicités de voyage. Vous n'en aurez presque pas. Ensuite, faites des recherches. Cliquez sur des sites de voyage. Voyagez à gauche, à droite, puis vous allez voir apparaître sur votre site Facebook des tonnes d'annonces de voyage. Parce que vous devenez un client qui s'intéresse à la matière. Ça a été identifié, ça a été vendu. Et à ce moment-là, il y a des publicitaires qui sont prêts à payer pour attirer votre attention. Oui.
Ben franchement, moi, ça me dérange. Alors, Apple affirme que son activité n'est pas de vendre des données sur ses clients ou publicitaires, ce que vous évoquiez. Contrairement à Google et Facebook, ses profits viennent de la vente de ses produits. Alors, certaines conditions générales précisent que les données amassées servent à voir ce qui marche et ne marche pas. De plus, Apple semble prendre très au sérieux le cryptage de ses données. Malgré tout, les revendeurs de données, des entreprises qui collectent, analysent et vendent des études sur les consommateurs, prospèrent grâce aux informations que les détenteurs de smartphones les laissent récolter. Une fois que vous avez accepté d'en céder une poignée à Apple, vous êtes libre d'allumer votre iPhone, de surfer sur Internet, de télécharger des tonnes d'applications, etc. À chaque fois, ce sont de nouvelles entreprises qui surveillent vos faits et gestes pour leur compte. Eh bien écoutez, moi je suis désolé, Big Brother, sa famille, ses parents, ses cousins, etc., hors de chez moi.
Qui vous appelait Big Brother? Quelques brèves avant de conclure. D'abord, je vous amène en Chine. On n'avait pas parlé de Chine aujourd'hui, c'est quand même étonnant. On parle de Chine presque toutes les semaines. Le responsable de service météorologique chinois a lancé une mise en garde dimanche contre les changements climatiques qui menacent notamment les récoltes en augmentant les risques de sécheresse et d'inondation. C'est intéressant parce que pour qu'un responsable du gouvernement chinois fasse une sortie publique comme ça, ça veut dire qu'il a suffisamment d'appui politique pour le faire. En Chine, on le sait, un fonctionnaire qui parle trop devient un chômeur, c'est pas très très long. Alors, en pratique, ça pourrait vouloir dire que oui, en Chine, ça y est, on commence à se sensibiliser et à vouloir sécuriser l'environnement. Et ça, pour la planète en entier, c'est une excellente nouvelle.
Une brève un peu plus légère. Savez-vous que les émissions culinaires font grossir les téléspectatrices? Les femmes qui ont l'habitude de regarder les émissions culinaires pèsent en moyenne 5 kilos de plus que les autres. Bon, je vais changer de chaîne.
Oui. Le président de Tesla Motors a lancé une bombe récemment en disant publiquement qu'il se pourrait qu'un jour il soit interdit de conduire sa voiture. Or, quand on sait que les Tesla sont précisément des voitures que tout le monde rêve de conduire et non pas d'être conduit par la voiture, c'était un scandale. Mais ce que le président voulait dire, c'est que le jour où effectivement les systèmes de conduite automatique seront plus sécuritaires que l'intervention humaine, ben il se pourrait qu'on juge les conducteurs comme un facteur de risque et qu'on interdise éventuellement aux gens de conduire leur voiture. OK, alors, une chance que je suis motard.
Mais non. Je vous rappelle cette merveilleuse phrase d'Alain Tanner, « La circulation automobile, c'est l'art dramatique des imbéciles et je souhaiterais y échapper pour ma part plus souvent. » J'ai une nouvelle terrible que vous connaissez tous, la fonte des glaces dans l'Arctique atteint un nouveau record. Et évidemment, on s'attend aux conséquences, enfin tout ça, on en a parlé des tas de fois. Simplement, c'est 5% chaque 10 ans. À ce rythme-là, vous voyez à peu près ce qui nous attend.
La semaine dernière, on vous parlait des évaluations environnementales au Canada qui, en matière de pétrole, sont dorénavant conduites par l'Office national de l'énergie et non plus par le ministre de l'Environnement, en fait, sous l'égide de la loi sur l'organisme du Bureau d'évaluation publique en environnement fédéral. On vous en parle cette semaine puisque en Colombie-Britannique, il y a un groupe d'intervenants qui se prépare à traîner le gouvernement fédéral et l'Office national de l'énergie devant la Cour suprême pour dire que c'est pas normal qu'on vienne nous dire il y a une évaluation, mais on n'a pas le droit de parler de réchauffement climatique, on n'a pas le droit de parler de l'effet de l'extraction des sables bitumineux. Et on est tellement limité que finalement, c'est plus une évaluation environnementale, c'est un système d'imprimatur, une espèce de rubber stamp, si vous me passez l'expression. Et ça va être un dossier judiciaire à suivre, encore qu'il m'apparaît assez risqué.
On vous annonçait la semaine dernière la création de l'alcool en poudre, très pratique pour conduire. Eh bien, figurez-vous que nous allons ajouter une deuxième poudre à cette première, qui est ce qu'une équipe de chercheurs américains a développé. C'est une levure qu'on peut utiliser afin de doper les bienfaits du vin et de réduire les substances toxiques responsables du malaise ressenti après une soirée bien arrosée. Autrement dit, c'est une poudre anti-gueule de bois.
Oui, bon, ceci dit, avant que je boive du vin, fait selon les préceptes d'une université, je crois, de l'Illinois, par un chercheur qui a un nom exact. Chinois... C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Vous avez peut-être vu cette semaine une étude qui est sortie de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui est venue dire que les fonctionnaires québécois étaient plus payés que la moyenne des gens. Eh bien, sachez que Statistique Québec, elle, dit carrément le contraire. Alors, si on se fie sur des données scientifiques, ce serait pas vrai. Vous l'entendez, l'indicatif qui nous signale que cette émission tire déjà à sa fin. On consent à laisser la place au ministre des Finances et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.